Mondial Sport sur RFI. Olivier Pron.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport Rugby. À l'honneur pour débuter ce magazine, la 9e Coupe du Monde s'est achevée ce samedi au Japon avec le 3e sacre de l'Afrique du Sud aux dépens de l'Angleterre, grande favorite. Cédric De Oliveira nous attend sur place. Nous irons aussi à Johannesburg en fête et unis autour des Springboks. Foot en Europe avec un gros plan, notamment sur la 11e journée du Calcio en Italie. Foot en Afrique avec le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Tennis avec la présentation de la finale du tournoi de Paris-Bercy, Djokovic, Chapovalov. Vélo avec le Tour du Faso à 24 heures de l'arrivée à Ouagadougou. Enfin, nous parlerons des JO 2020, contraints par le CIO de délocaliser le marathon et les épreuves de marche de Tokyo à Sapporo, au nord, où il fera moins chaud. Allez, c'est parti. Rugby donc pour ouvrir ce Mondial Sport avec la Coupe du Monde qui s'est terminée ce samedi au Japon. On le disait, sur un nouveau triomphe de l'Afrique du Sud. De toute façon, tous les 12 ans, ce sont les Springboks qui gagnent cette compétition. Qu'on se le dise, c'était ainsi en 95 et en 2007 et donc en 2019. Ils se sont imposés 32-12 face à l'Angleterre après une finale parfaite qui a déchaîné les passions dans tout le pays, notamment à Johannesburg où se trouvait Claire Bargelès pour RFI. On écoute son reportage et on filera ensuite au Japon pour débriefer cette finale. Et ce mondial avec Cédric De Oliveira qui veille fort tard. D'abord ambiance à Johannesburg.
Avant même le coup d'envoi, les supporters rassemblés devant l'écran géant étaient sûrs d'eux. Cette finale, c'est la leur et les Anglais n'ont aucune chance. Ntsoa qui est persuadé que les Springboks version 2019 peuvent ramener le trophée.
J'ai une totale confiance, on va gagner ce match. Je suis contente qu'on ne joue pas les All Blacks, mais les Anglais, on va gagner. Allez les Box.
À la mi-temps, les Sud-Africains mènent 12-6, mais après une grosse offensive anglaise qui n'est pas passée loin. Pourtant, rien ne saurait entamer l'enthousiasme de Marie, tout habillée de vert et d'or.
Oh, c'est génial, on est devant, on est heureux, on gagne, on se bat, on pousse, on met toutes nos forces et on joue super bien.
Après un duel de buteurs entre Owen Farrell et André Pollard, les Sud-Africains plieront finalement le match grâce à deux essais. À la sortie, Marie est rayonnante.
Je me sens incroyablement bien, je suis sur un petit nuage. On l'a fait, on a gagné, je suis fière, tellement fière. Nos gars ont si bien joué.
Cette fanzone où l'on se trouve est située juste en face du musée qui retrace l'histoire de l'apartheid, un régime sous lequel le rugby était un sport réservé aux Blancs. C'est donc avec beaucoup d'émotion que le public a admiré Siya Kolisi, le premier capitaine noir de l'équipe, soulever le trophée Webb Ellis. Pour Daniel, il marque aujourd'hui l'histoire.
Quand on connaît ses origines, son parcours, le fait que la dernière victoire en Coupe du Monde, il l'a regardée dans une simple taverne, et voilà qu'aujourd'hui il mène cette équipe jusqu'au bout, c'est assez motivant.
Et selon Cédrica, le rugby aura, le temps d'un match, rassembler la nation, comme le souhaitait à l'époque Nelson Mandela.
C'est comme ça que ça devrait être, tous unis, c'est ce que le sport peut faire, nous rassembler, c'était juste incroyable.
Sur les réseaux sociaux, de nombreux Sud-Africains réclament désormais un jour férié, lundi, pour fêter la victoire, le temps d'un long week-end. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Voilà donc pour l'ambiance festive en Afrique du Sud. Et ça, c'est assez logique finalement. Il est temps maintenant d'analyser ce succès des Springboks, cette défaite du 15 de la Rose et plus globalement de dresser le bilan de cette Coupe du Monde. Et tout cela, nous allons le faire avec Cédric De Oliveira qui a suivi sur place toute la compétition. Il est là depuis des mois et des mois pour RFI. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Olivier.
Succès mérité et incontestable, a-t-on envie de dire, des Sud-Africains qui s'adjugent donc pour la troisième fois, on l'a dit, une Coupe du Monde.
Ah oui, éclatante démonstration des Springboks qui ont vraiment maîtrisé ce duel qu'on annonçait très âpre, très disputé. Eh bien, ça l'a été, il y a eu beaucoup de dureté dans les impacts. Et à ce jeu-là, eh bien, c'est l'Afrique du Sud qui a lentement pris le dessus grâce à son pack d'avant surpuissant, domination aussi en mêlée, ce qui a permis eh bien, de mettre la pression sur les Anglais, beaucoup trop pénalisé. Et le numéro 10 sud-africain André Pollard en a profité. 4 pénalités pour lui lors de la première période. Seulement 2 pour son rival anglais Owen Farrell. Ça faisait donc 12-6 déjà à la pause avant que la supériorité sud-africaine ne soit encore plus criante en seconde période et concrétisée par 2 essais des ailiers Makazole Mapimpi et Cheslin Kolbe qui ont parachevé le succès des Box 32-12.
Victoire méritée donc de l'Afrique du Sud qu'on n'attendait peut-être pas, sans doute pas, à pareille fête au début de la compétition.
Alors, ils faisaient partie des favoris, Olivier, mais c'est vrai qu'on les voyait un ton en dessous des Néo-Zélandais ou bien des Anglais. Et à l'arrivée, ce sont eux qui raflent la mise, finalement, des box qui étaient au fond du trou il y a encore 18 mois. Et l'arrivée de Rassier Erasmus, le sélectionneur qui a su redonner un esprit de corps aux Sud-Africains qui sont montés en puissance depuis, en remportant notamment le Rugby Championship cet été, l'équivalent du tournoi des Six Nations dans l'hémisphère sud. L'Afrique du Sud, qui a même perdu son premier match de compétition en poule face aux All Blacks, 23 à 13, mais c'est peut-être ce qui leur a permis d'être sacré aujourd'hui.
C'était ma première Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et le premier match face aux All Blacks et la pression du premier match a été très dur à gérer pour nous. Ça a été très compliqué dans la semaine précédant la rencontre. On était très tendus et ça nous a sans doute servi ensuite dans la manière d'aborder la phase finale des quarts jusqu'à cette finale. Mais cette pression, c'est plutôt un privilège.
Rassi Erasmus, qui est aussi l'homme qui a nommé Colissi, le troisième ligne, comme capitaine des Springboks. Pas anodin comme choix, Colissi qui a grandi dans un township de Port-Elizabeth et le premier capitaine noir d'une équipe, on le rappelle, qui était le symbole de l'ancienne apartheid. Les Noirs n'avaient pas leur place à l'époque chez les Boks. Cette fois, ils étaient six titulaires sur la pelouse. Alors souvenez-vous l'impact de la victoire de l'Afrique du Sud en 1995 et de ce cliché célèbre de François Pinard et Nelson Mandela. Eh bien, on se souviendra aussi longtemps de Siya Colissi brandissant le trophée Webb Ellis.
Oui, l'image était très très belle ce samedi matin. Alors, consécration pour les Sud-Africains, mais évidemment déception pour les Anglais qui ont complètement raté leur finale.
Oui, complètement dominé le 15 de la Rose, sans doute gêné par la sortie précoce du pilier Kyle Sinclair. Mis KO par un coup de coude de son coéquipier Maro Itoji. Ça a perturbé les Anglais, notamment en mêlée. Ils n'ont jamais réussi à s'en remettre. En tout cas, ils ont été impuissants, bien loin de ce qu'ils avaient montré la semaine dernière face aux All Blacks. Alors, se sont-ils vus trop beaux, les joueurs d'Eddie Jones? C'est la question qu'on a posée aux sélectionneurs.
Oui, ça pourrait bien avoir joué un rôle. Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas trop pourquoi on n'a pas bien joué aujourd'hui, mais ça arrive dans les matchs de rugby de haut niveau. On a cru que notre préparation de la finale cette semaine avait été bonne, mais visiblement, ça n'a pas été le cas, parce qu'on n'a pas bien joué. On est extrêmement déçus, mais en même temps, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que les joueurs ont fait. Je ne peux pas dire à quel point j'ai du respect pour eux, à quel point ils ont bien travaillé, mais on a été trop court aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas à cause d'un manque d'effort de notre part.
Eddie Jones, dont c'est le deuxième échec en finale après celui infligé en 2003 par les Anglais, justement, lorsqu'il entraînait l'Australie. La seule victoire anglaise en Coupe du Monde, puisque c'est la seule que le 15 de la Rose a obtenue en quatre finales. Les Anglais qui donnent maintenant rendez-vous en 2023 en France.
Un mot, Cédric, sur la déception néo-zélandaise, les All Blacks, qu'on attendait à la place de l'Afrique du Sud, comme souvent, mais qui sont donc tombés de leur piédestal il y a 8 jours en demi-finale.
Et tout le monde les voyait brandir ce troisième trophée de suite, mais ils ont dû se rendre à l'évidence. L'Angleterre était trop forte, beaucoup trop forte. En demi-finale, on avait rarement vu les All Blacks aussi malmenés. Et même s'ils ont mis un point d'honneur à remporter ce match pour la troisième place face aux Gallois, eh bien, c'est la fin d'un cycle pour eux. Le capitaine Kieran Reid a tiré sa révérence, tout comme les tauliers Ryan Crotty, Ben Smith ou encore Sonny Bill Williams. Et même chose pour le sélectionneur Steve Hansen, qui a remporté 2 titres mondiaux, donc en 2011 et 2015. Le chantier est immense pour les All Blacks qui vont maintenant se chercher un nouveau sélectionneur.
Et puis un mot rapide aussi sur le Japon, Cédric, qui a enthousiasmé la planète rugby lors de ce mondial dont il est la belle surprise.
Oui, les Brave Blossoms aux jeux si atypiques, si dynamiques, qui ont apporté un vent nouveau au rugby parfois stéréotypé des nations historiques. Ça a notamment offert un moment unique avec la qualification des Japonais pour les quarts de finale après un match remarquable face à l'Écosse et qui a bien fait ne pas avoir lieu à cause du typhon Agibis. En tout cas, les joueurs de Jimmy Joseph ont enchanté le pays. Il y avait plus de la moitié du Japon devant son téléviseur pour regarder les matchs face à l'Écosse et l'Afrique du Sud en quarts de finale. Peut-être ce qui a permis à la compétition d'être vraiment suivie, très agréable. Les stades étaient remplis. De l'avis de tous les observateurs, cette Coupe du Monde aura été plutôt réussie. C'est ce que pense aussi Wifi Ueno. Il est vice-président de la Fédération asiatique de rugby et il a beaucoup œuvré pour que la compétition ait lieu au Japon.
C'est encore mieux que ce qu'on avait imaginé avant la Coupe du Monde. L'attitude de tous les supporters étrangers a été incroyable. Ça a donné une atmosphère fantastique. Je pense que cette Coupe du Monde a été un véritable succès.
Voilà un bémol tout de même, Olivier. Ces annulations de matchs à cause du typhon Agibis, on en parlait. France-Angleterre, Nouvelle-Zélande, Italie et Canada-Namibie. C'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. World Rugby n'a d'ailleurs pas fini d'en payer les conséquences, notamment auprès des diffuseurs qui ont parfois payé très cher la retransmission des matchs. La Fédération internationale accusée de n'avoir pas eu de plan de secours, alors qu'elle savait très bien, elle connaissait très bien les risques climatiques à cette période de l'année au Japon.
Merci Cédric de Oliveira, bonnes vacances à vous, vous les avez bien méritées. Après le rugby, comme promis, place au foot en Europe avec une sacrée journée en Espagne. Tiens, avec la défaite du Barça à Levante, on fera le point dans quelques instants, mais aussi le coup de tonnerre en Allemagne, 10e journée de Bundesliga et la pire défaite carrément du Bayern Munich depuis 10 ans. Les Bavarois balayés 5-1 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, 6e au classement, le Bayern 4e désormais à 4 longueurs de Mönchengladbach, vainqueur 2-1 au Bayer Leverkusen, à 1 point de Dortmund qui a dominé Wolfsburg 3-0 et le Bayern devançait la différence de but par le RB Leipzig qui a collé carrément 8-0 à Mayence. En Italie, 11e journée du Calcio ce week-end et figurez-vous que les matchs qui nous intéressaient se disputaient aujourd'hui. Alors on a appelé Matteo Cioffi qui nous a dit « Allez banco ». Bonsoir Matteo.
Bonsoir, bonsoir Olivier.
Alors d'abord, c'est terminé ou sur le point de se terminer, parlez-nous du derby turinois avec le Torino 13e qui accueillait la Juve et la Juventus.
Ouais, il reste à jouer un peu plus de 2 minutes. Pour l'instant, c'est le joueur le plus critiqué par ces mêmes supporters de la Juve, c'est-à-dire le néerlandais Matthijs de Ligt, qui est en train de décider ce match. 1-0 pour la Juve, c'est l'ex-Ajax qui a donc ouvert le score à la 70e minute sur une passe décisive de son coéquipier Gonzalo Higuaín. Donc, d'un côté, la qualité de la Juve, de l'autre, l'intensité du Torino, qui se bat avec toutes ses forces pour éviter une défaite qui commence à devenir un cauchemar. Torino a perdu 10 des 11 derniers matchs joués à domicile face à la Juve. Donc, aux 4 victoires, la Juve assure sa première place au classement avec 29 points, une longueur en plus sur l'Inter.
Alors oui, c'est un résultat important car avec cette victoire, vous le disiez, la Juve repasse devant l'Inter qui est allé s'imposer 2-1 à Bologne grâce à un doublé de Lukaku.
Oui, l'Inter s'est fait surprendre par Bologne qui a ouvert le score après une heure de jeu. Et là, en ce moment, on a vu le Nerazzurri presque assommé pour un beau quart d'heure. Ensuite, a réveillé les Milanais, vous l'avez dit, le Belge Romelu Lukaku qui a tout d'abord égalisé. Puis à la 90e minute, c'est-à-dire vraiment à la fin, il a réalisé sur penalty le goal de la victoire qui a donc été soufferte pour les hommes d'Antonio Conte, mais qui permet d'empocher 3 points et très important, vu que l'Inter est toujours en course pour le Scudetto.
Alors dites donc, qui est sur le podium depuis aujourd'hui derrière la Juve et l'Inter donc ? La Roma, 3e.
Ouais, c'est la Roma.
Oui, qui a enfoncé un Naples où, dit-on, d'après ce que nous on a entendu, le Sénégalais Kalidou Koulibaly aurait encore été victime de cris racistes. Ça devient une mauvaise habitude si c'est avéré. Parlons de ce Roma-Naples et de cette victoire de la Roma, Matteo.
Oui, ça a été un match riche d'émotions comme tradition. Rome-Napoli, celui qu'on appelle le derby du soleil, cet après-midi a éclairé la Louve, car les Giallorossi se sont imposés grâce à un but du jeune talent Nicolò Zaniolo, tandis que le français Jordan Veretout, le français, a réalisé les 2-0 sur penalty. Ensuite, le goal de Milik à 20 minutes de la fin n'a pas suffi à relancer les Napolitains vers un possible match nul. La Roma s'est donc offert son 3e succès d'affilée qui lui permet de grimper au nord du tableau à la 3e place, tandis que le Napoli est à sec de victoire depuis 3 journées et glisse donc à la 7e place avec 11 points en moins sur la Juve. C'est énorme. À noter que l'arbitre donc du match, Gianluca Rocchi, qui à la 23e minute de la 2e mi-temps a interrompu le jeu à cause de quelques chants racistes contre les Napolitains. Et on dit aussi vers le Sénégalais Koulibaly, moi personnellement je ne les ai pas entendus et j'ai suivi le match. De toute façon, l'arbitre a arrêté pour 1 minute le match et a souligné le très beau geste de la part du capitaine de la Roma, Dzeko, qui a commencé à applaudir le choix de l'arbitre et a invité tous les spectateurs à faire le même geste. Les spectateurs l'ont suivi, même si à la fin de cette rencontre, ils ont recommencé, quelques-uns ont recommencé à faire ces chants odieux.
quelques crétins, on peut dire ça comme ça. Merci Matteo, on vous souhaite une belle fin de soirée du côté de Milan, on vous dit à très bientôt. On rappelle que l'affiche de demain pour clore cette journée dans le calcio, ce sera l'AC Milan, mal en point, dixième, hein, on sait que ça vous fait mal Matteo, mais c'est ainsi, qui reçoit la Lazio de Rome, cinquième. Les autres résultats européens, je vous le disais il y a quelques minutes, la défaite du Barça en Espagne, on salue le Réfé au passage s'il est à l'écoute, 3-1 à Levante, le huitième, Messi avait ouvert le score, mais les Catalans qui restaient sur 5 victoires de rang ont encaissé 3 buts en 8 minutes après l'heure de jeu. L'Atlético Madrid a été tenu en échec 1-1 au FC Séville et pointe à une longueur de Barcelone à la 3e place. Et actuellement, si j'arrive à retrouver à quelques minutes de la fin du match, eh bien le Real, je suis en train de chercher tout ça mais c'est un peu compliqué, le Real était tenu en échec face au Betis Séville. Il est actuellement à la hauteur du Barça, même nombre de points, avec un point d'avance sur l'Atlético Madrid. Donc après son match nul, 1-1, 0-0, on est à quelques minutes de la fin, pour être précis, à une minute de la fin du temps réglementaire. On est précis, hein, grâce à Thomas de Saint-Léger. En Angleterre, victoire sur le fil du leader Liverpool 2-1 à Aston Villa. Grâce à qui? À Sadio Mané, bien sûr, à la 94e minute. Toujours 6 longueurs d'avance sur Manchester City, vainqueur sur le même score de Southampton. 3e pour le moment, Chelsea 2-1 aussi à Watford. Arsenal 1-1 face à Wolverhampton et loin, 5e. Manchester United, encore plus loin, battu à Bournemouth. Les Red Devils 1-0 sont 10e. On termine par la Ligue 1, sans queue ni tête, puisque le leader Paris a perdu hier chez le dernier, Dijon. Ce samedi, Marseille a battu Lille au Vélodrome. L'OM 5e à 8 points de Paris, à 1 point d'Angers 2e, qui a battu Strasbourg 1-0. Vainqueur in extremis à Toulouse, 3-2 grâce à Depay. À la 95e minute, Lyon remonte à la 8e place, à 3 points du podium. Eh ben toujours du football, mais on quitte l'Europe, on descend un peu plus au sud, nettement plus au sud. Week-end de Coupe d'Afrique des clubs, enfin pas pour tout le monde. Les équipes engagées en Ligue des Champions, Thomas de Saint-Léger, sont au repos, mais on joue en Coupe de la Confédération, les matchs retour du tour de cadrage.
32 équipes sur la ligne de départ, 16 matchs en format aller-retour. Et la carotte, le sésame, c'est un ticket pour la phase de groupe. 15 de ces 16 rencontres retour se joueront demain. Dans le détail, à suivre par exemple Renaissance de Berkane Fossa Junior, les Malgaches vainqueurs surprise de la première manche 2-0. À Conakry, le Oroya doit terminer le travail face au Kenyan de Bandari 4-2 à l'aller. Idem pour Nouadhibou, 2-0 pour les Mauritaniens contre Triangle United. Et pour le Djoliba, auteur d'une belle victoire, 1-0 sur la pelouse d'Elect Sport, club, Elect Sport, on peut le dire d'ailleurs comme ça, club tchadien repêché de Ligue des Champions. Reste 90 minutes pour confirmer quelle sera la méthode adoptée. La réponse de l'entraîneur de la formation malienne, Georges Kouadio.
Nous partons comme si nous avons fait 0-0 là-bas et nous allons nous battre. L'adversaire n'a d'autre solution que de vouloir jouer son bateau ici. Nous allons jouer comme si c'était le premier match que nous jouons et nous allons nous livrer comme eux aussi vont se livrer. Il faut beaucoup de considération, beaucoup de respect à cette équipe. Mais nous allons respecter cette équipe sans en avoir peur. Nous allons respecter cette équipe en jouant franchement, crânement, nos chances. Parce que nous sommes à 90 minutes d'un grand bonheur qui attend le football malien.
Georges Kouadio au micro de Mamadou Kalouga.
C'est bien parti pour le Djoliba, pas trop mal non plus pour l'AS Kara du Togo.
Oui, mais attention, la victoire la semaine dernière contre Enugu 2-1 peut être trompeuse. Il y a ce but encaissé à domicile qui n'est jamais très bon, bien sûr, dans une confrontation. Aller-retour, mince avantage aussi pour les Congolais de Motema Pembe. 1-1 sur le terrain de Gor Mayal. Les joueurs du Daring Club peuvent conclure chez eux, à la maison, devant leur public. Un public exigeant, parfois trop. L'entraîneur Isaac Ngata passe donc le message aux supporters pour demain. Solidarité demandée.
Le football est compliqué parce qu'on peut passer très vite de l'amour à la haine, de la haine à l'amour. Mais ces derniers temps, j'ai remarqué que le supporter était derrière nous, surtout dans la campagne africaine. La dernière fois qu'on s'est qualifié, je pense qu'il y a eu beaucoup d'eux aussi, parce que la confiance qu'ils ont remise dans la tête des joueurs a fait que les tirs au but aient été beaucoup plus faciles à aborder. Aujourd'hui, si on continue dans cet élan-là et que le supporter, aussi exigeant soit-il, nous accompagne quand on va mal, on va aller bien. Le public est derrière nous, mais nous, on sera devant le public mais sans eux, on sera nulle part. Donc, ils vont être moins exigeants, je pense, mais ils vont être plus supporters. Et supporter, ça veut dire que c'est quand on va mal qu'il faut qu'ils nous aident.
Isaac Gata avec Kabulo Moana Kabulo. On n'oublie pas le San Pedro de Côte d'Ivoire face à la Chanté Kotoko 1-0 à l'aller pour les Ghanéens.
Voilà pour le foot. Vous restez avec nous, Thomas, pour parler de la petite reine, le cyclisme. Le Tour du Faso, 32e édition, elle s'achève demain. Et sauf surprise, le bilan sera mitigé pour les Burkinabés.
Oui, alors on peut voir le verre à moitié plein en parlant d'abord de la victoire aujourd'hui de Bashirou Nikiema à Ouagadougou. Du bouquet aussi remporté par Mathias Sorgho sur la deuxième étape. Mais voilà, au général, les Burkinabés sont loin du compte. Le premier, Bashirou Nikiema, cinquième à plus de 3 minutes du maillot jaune, l'Angolais Manuel Antonio Dario. Le podium, lui aussi, semble inaccessible. Pour la première fois depuis 2009, les étalons pourraient en être absents. Comment expliquer cette petite contre-performance? Un changement de braquet, bien sûr, peut-être au niveau du plateau d'engagé, mais pas seulement, nous dit le directeur technique national Martin Sawadogo.
On sent que dans le peloton, il y a réellement une compétition de gestion technique de très haut niveau. Au regard même de la vitesse moyenne qui part souvent de 46 à 47 km/h. Franchement, c'est une autre compétition. Quant aux équipes, bien sûr, le Burkinabé, on a le maillot vert. Nous avons les prix, le maillot des sprints intermédiaires. Gagner une étape à Diébougou, bien sûr, avec le classement par l'équipe, j'ose espérer qu'on va l'améliorer. Mais le Burkina Faso a pêché à l'étape, surtout Diébougou, Bobo Dioulasso. Un groupe qui part à 8 minutes et aucun Burkinabé ne soit là-bas, ce n'était pas tolérable. Normalement, c'est nous qui devons réagir pour réellement essayer, en tout cas, de souder. Mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, il y a eu l'étape aussi de Tenkodro à Dapango. C'était presque les mêmes erreurs. Ça ne se perd pas avec des équipes très, très aguerries.
Allez, le maillot jaune, c'est perdu. Maintenant, il faut mettre un point d'honneur à gagner à Ouagadougou à la dernière étape.
La course n'est pas finie, il reste une étape. En tant que directeur technique, quand même, je suis réaliste par rapport au temps, à l'écart du temps de 3 minutes, il faut dire la vérité, ça serait très difficile. Alors, l'autre objectif, c'est vraiment une victoire d'étape à Ouagadougou, conserver le maillot vert, le maillot des sprints intermédiaires, améliorer, bien sûr, le classement par équipe. Ça aussi, ça va être très, très intéressant. Si on n'a pas le maillot jaune, le minimum qu'on gagne au moins, la victoire d'étape. Si la victoire d'étape doit réellement faire une apothéose, alors nous allons aller pour la victoire d'étape.
Gabriel Barrois avec Martin Sawadogo avec Gabriel Barrois.
Hey, merci Thomas. On parle tennis à présent dans Mondial Sport avec la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Ce dimanche, elle sera inédite. Elle opposera Novak Djokovic à Denis Shapovalov, l'invité surprise. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
Le Canadien Shapovalov qui a profité, et ce fut le coup de tonnerre de la journée, du forfait de dernière minute de Rafael Nadal avant la demi-finale qui devait les opposer.
Un forfait qui a surpris tout le monde, y compris Denis Shapovalov lui-même. Le jeune Canadien était en train de se préparer dans les vestiaires tranquillement avant que l'annonce ne tombe. Rafael Nadal ne peut pas jouer en raison d'une blessure aux abdominaux. L'Espagnol est venu le raconter dans la foulée à la presse. En fait, c'est sur l'un de ses derniers services lors de son entraînement du matin, qu'il a senti une douleur. Un test sur le court l'après-midi, puis l'échographie réalisée immédiatement ont confirmé la blessure. Peut-être pas très grave, d'autres examens le détermineront demain, mais suffisante pour l'empêcher de jouer sa demi-finale contre Shapovalov. Rafael Nadal, qui espère être rétabli d'ici le Masters de Londres, qui débute dans 8 jours, un tournoi londonien réunissant les 8 meilleurs joueurs du monde, d'autant plus important cette année qu'il va décider de qui terminera numéro 1 mondial en 2019, soit Nadal, soit Djokovic. Les deux hommes sont actuellement au coude à coude au classement.
Rafael Nadal, Eric, qui décidément est maudit à Bercy, n'a jamais gagné là-bas. Hein.
Oui, autant avec Roland Garros, l'histoire d'amour est intense, voire passionnelle, avec 12 trophées soulevés. Autant ici, c'est la guerre froide, on pourrait dire. Jamais le Majorquin, vous l'avez dit, n'a réussi à s'imposer à Bercy. Il ne compte qu'une seule finale disputée. C'était en 2007, lorsque David Nalbandian, aujourd'hui à la retraite, l'avait corrigé 6-4, 6-0. La faute à une surface indoor qui est loin d'être sa préférée. La faute aussi à des nombreuses blessures survenues, soit avant le tournoi, soit pendant, comme cela avait été déjà le cas en 2016. Résultat, il n'a pu disputer qu'à 7 reprises ce Masters 1000 de Bercy au cours de sa carrière. Des blessures répétitives en fin de saison que tente d'expliquer l'ancien joueur français Cédric Pioline.
Un, il vit. Deux, on sait que historiquement, il concentre sa saison, son pic de saison, c'est la terre battue, entre avril et mai. Donc il a 2 mois et quelques là qui sont très, je pense, violent au niveau de son organisme. Et quand on réfléchit bien, depuis Roland-Garros, il a joué Wimbledon, Montréal, l'US Open. Et là, c'est son quatrième tournoi, en fait, seulement. Et tous les ans, dès qu'on passe l'US Open, en fait, il est complètement raplapla. Et il a souvent, d'ailleurs, une blessure qui arrive à un moment. Donc là, c'est musculaire, parfois c'est le genou.
Ce forfait fait donc le bonheur de Denis Shapovalov, le Canadien de 20 ans qui disputera demain sa première finale dans un tournoi Masters 1000. Il s'était révélé, souvenez-vous, il y a 2 ans avec une victoire contre justement Rafael Nadal. L'actuel 28e mondial semblait calé cette année avant de se relancer à l'automne avec un premier titre remporté à Stockholm tout récemment. Puis ici à Bercy, une magnifique semaine avec des succès probants sur Fonini, Zverev et Gaël Monfils. Et hier, certain que ce joueur très spectaculaire et agressif a les armes pour contrarier Novak Djokovic demain en finale.
Un Novak Djokovic qui, à l'inverse de Nadal, lui, est en pleine forme.
Il était patraque en début de semaine avec un gros rhume. On a ainsi eu droit au fantôme de Djoko lors de ses 2 premiers matchs contre Muta Edmund. Mais en quart de finale, puis aujourd'hui en demi, on a retrouvé la machine serbe. 6-1-6-2 hier contre Tsitsipas, 7-6-6-4 aujourd'hui contre un très bon Grigor Dimitrov. Le Serbe qui toutefois a dû s'employer pour venir à bout du Bulgare numéro 3 mondial il y a 2 ans. Novak Djokovic.
Je pense que le match était vraiment égal. Les premiers matchs, peut-être lui était le meilleur joueur sur le court, mais j'étais concentré jusqu'à la dernière coupe et c'était vraiment important de gagner le premier match. Après, je pense que le niveau de tennis s'est élevé un peu pour moi.
Djokovic qui va viser son 5e titre ici à Bercy, le Serbe qui avait été battu l'an dernier en finale et à la surprise générale par un autre membre de la nouvelle génération. Tiens, c'était le Russe Karen Khachanov, donc qui sait.
Merci Eric, à demain alors, sans faute, pour la finale.
Avec plaisir.
Un peu qu'on le retrouvera Eric Mamrut pour cette finale qui débute à 15h, heure de Paris, 14h temps universel, il sera en direct. Comme c'est le cas depuis le début de la semaine du Palais Omnisports de Paris-Bercy. Tiens, du tennis toujours, mais alors à l'autre bout de la planète. On est à Shenzhen en Chine. L'Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondial, s'est qualifiée pour la finale du Masters Dames. On a entendu que le Masters des Hommes, ce serait dans 8 jours à Londres. Eh bien, Ashleigh Barty a battu Carolina Pliskova, la numéro 2 mondiale. Logique respectée, numéro 1, numéro 2. Elle l'a battue en 3 manches et pour son premier Masters à 23 ans, elle tentera de détrôner en finale Elina Svitolina, 25 ans et numéro 8, elle, dans la hiérarchie. Elle est tenante du titre et elle a profité de la blessure aujourd'hui au 3e set et bien de Belinda Becic, la Suissesse. Et puis au Masters 1000 de Paris-Bercy, on n'en a pas parlé mais on peut signaler que la paire française Mahut Herbert est en finale pour la deuxième fois. La première fois en 2016, il s'était incliné. Et bien là, on leur souhaite le meilleur pour cette deuxième finale. Après celle perdue initialement, ils tenteront de décrocher le 13e titre de leur collaboration et il y a déjà 6 grands chelems au compteur. Des nouvelles du football, parce qu'on n'a pas terminé tout à l'heure avec Matteo Cioffi. On n'était pas sûr que la Juve ait gagné. Je vous le confirme, elle a gagné 1-0, la Juve, et elle reprend donc la tête du Calcio à l'Inter Milan qui lui avait chippé pendant quelques heures. Et puis du côté de Madrid, c'est fini, ça n'était pas le cas tout à l'heure, c'est fini entre le Real Madrid et le Betis Séville. C'est une contre-performance pour le Real, tenu en échec 0-0 par le Betis qui n'est que 16e. Résultat, le Real ne profite pas tout à fait de la défaite de Barcelone qu'on a évoquée tout à l'heure, puisque les deux équipes se rejoignent. Il y a 22 points pour Barcelone qui est devant à la différence de but, plus 15. 22 points pour le Real Madrid, plus 12. L'Atlético est à une longueur, le FC Séville au même niveau, et Grenade, qui ne jouera que demain, est à 2 points. On rappelle que le Barça et le Real devaient se rencontrer le week-end dernier. Ça n'a pas été le cas, donc ils se retrouveront juste avant Noël. Ils ont donc un match en moins. Voilà, on arrive au bout du bout de ce mondial sport. On vous parlera des JO qui doivent délocaliser, les JO de Tokyo en 2020 qui ont été obligés par le CIO de délocaliser le marathon et les épreuves de marche dans le nord, à Sapporo, où il fera moins chaud. On en parlera donc demain, parce que tout simplement ce soir, il y avait trop d'actualité pour qu'on puisse l'évoquer. Allez, merci à Fabrice Violet pour sa réalisation. À demain, même heure, même fréquence.
Ce mardi, vivez sur